Merci pour votre invitation. Ce que je vous propose sur ce thème, quels sont les enjeux de l'écologie, c'est de faire un petit tour historique, de voir comment, à travers les termes qui ont été au centre de cette question-là, ben les enjeux ont changé et puis la perception de ces enjeux ont changé. C'est-à-dire c'est une balade pour aller voir comment on est passé dans les débats à la mise en avant du terme « nature », plus à la mise en avant du terme « d'environnement » ou de « cadre de vie ». Puis ce qui a été mis en avant, c'est le terme « d'écologie ». Et aujourd'hui, on a un débat où pendant longtemps, on a parlé de développement durable. Aujourd'hui, il y a le terme de décroissance qui apparaît. Donc ça sera moins théologique que sur l'histoire des idées. Et vous verrez que les protestants, au centre de penseurs écolos protestants, ont été très présents dans ces débats. Puis éventuellement, dans les questions après, on pourra peut-être, si vous voulez être plus sur des questions théologiques, on pourra à ce moment-là y venir. Donc aujourd'hui, on parle, je crois que votre cycle est autour du terme de l'écologie, mais pendant assez longtemps, le terme qui était très dominant, c'est le terme de nature. Si on voit par exemple dans les années fin des années 60, on a la création de deux fédérations très importantes, la Fédération française des sociétés de protection de la nature et au niveau international l'Union internationale pour la conservation de la nature. En 70-71, on a l'année internationale de la protection de la nature et en 1971, la création du journal Combat Nature. Donc là, on voit qu'il y a tout d'un coup l'émergence du terme nature. Il faut le lier à deux événements. En 1967, on a la catastrophe du Torrey Canyon, qui est la première grande catastrophe pétrolière du côté nord-américain. Et puis, un peu avant, en 1963, on a la création du parc de la Vanoise, qui est le résultat d'une des premières grosses luttes en France sur les questions donc à l'époque, de nature. Alors, le terme nature lui-même, il est assez ancien, puisque c'est un terme qu'on voit depuis l'Antiquité dans la philosophie. Premier éclairage théologique, c'est le terme nature a sans doute une modification au XIIe siècle. Alors ça, c'est un médiéviste qui s'appelle Lynn White, qui est justement un protestant presbytérien, qui, en 1966, écrit dans la revue Nature un article sur les racines historiques de notre crise écologique. Et cet article a été longtemps compris comme...
66.
A longtemps été compris comme une mise en cause de est-ce que ce n'est pas à cause des chrétiens s'il y a la crise écologique. Alors c'est un article qui a tellement marqué les débats que récemment, Labor et Fides a sorti encore un volume suite à un colloque où il retraduit l'article de Lynn White et où il y a tout un débat là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle pour Lynn White? Il dit qu'on a un retournement dans la conception occidentale du rapport à la nature. Jusque-là, la théologie naturelle, c'est d'abord le décodage des symboles physiques de la communion de Dieu avec l'homme, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la nature des signes qui renvoient de la nature vers Dieu. Je donne tout un exemple. Vous connaissez les fruits de la passion et le passiflore, qui est la fleur qui va avec. Et justement, ça s'appelle la passiflore parce qu'on y voit dessus des petits clous et que donc ça serait les clous de la passion du Christ. Là, c'est un exemple très simple, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce qui est recherché dans ces symboles jusqu'au XIIe siècle, c'est d'y voir tout un ensemble où en fait ce qui est l'ordre du ciel se reflèterait dans l'ordre de la nature. Au XIIe siècle, dit Lynn White, il y a un renversement. On ne cherche plus ce décodage des symboles de la communication avec Dieu, mais on recherche l'esprit de Dieu à travers les mécanismes de fonctionnement de la nature. C'est-à-dire qu'on cherche les mécanismes qui font tourner la nature et on dit « ben là, c'est l'esprit de Dieu qui souffle ». Alors, d'un côté, ça reste très spirituel, mais ce que dit Lynn White, c'est qu'à ce moment-là, ce qui est mis en route, c'est justement une vision mécaniste de la nature, c'est-à-dire qu'on cherche des mécanismes, certes inspirés par Dieu, mais on cherche des mécanismes, et rapidement, on trouvera les mécanismes qui vont fonctionner la nature sans Dieu. Voilà, donc à ce moment-là, cette... dans cette vision-là, petit à petit, la questionnement, c'est est-ce que se met pas en place une vision qui, justement, transforme la nature en mécanique, transforme et donc coupe tout lien charnel, toute vision transcendante de la nature. On pourra peut-être en revenir dans le débat. Au XVIe siècle, les naturalistes font de la nature des objets à observer, donc aussi une mise en distance. Et là-dessus, le protestantisme joue aussi un rôle important. Alors, dans cette vision, justement, quand on parle de nature, donc au début des années 60, avec cet arrière-plan théologique finalement assez ancien, qu'est-ce que c'est que la nature ? C'est d'abord la faune, la flore. On parle à ce moment-là très peu du climat, très peu de l'atmosphère. On ne parle quasiment pas, donc je veux dire, au début des années 60, fin 60, on ne parle pas encore de la question de l'épuisement des ressources naturelles. On est dans l'étude des objets, la faune, la flore, et on n'est pas encore à étudier les processus. On parle de protection, de conservation. L'humain et la nature sont d'abord vus comme des réalités séparées, et donc l'humain séparé de la nature peut le détruire, ou peut la détruire, ou peut la conserver. La nature s'est vue comme un ensemble d'objets séparables et dénombrables. On y reviendra, mais c'est tout le travail naturaliste qui ont dénombré, séparé, classé la nature en espèces, en choses qu'on peut mettre dans des tableaux. Cette approche-là, elle est justement mise en crise et en débat au milieu des années 60. C'est cette critique-là qui va nous faire passer de la nature comme centre, comme mot au centre, à l'environnement. Alors cette critique, je vous en donne plusieurs exemples. En 1968, quelqu'un qui s'appelle Serge Moscovici, qui est un psychosociologue, écrit un essai sur l'histoire humaine de la nature. Remontant au XVIe siècle, il montre comment la volonté de classification et de quantification des phénomènes naturels, donc par exemple ce travail des naturalistes de vouloir trouver toutes les espèces et puis les classer avec des tableaux, dans des boîtes, etc., commence à glisser d'une observation très précise vers un désir de trouver des lois universelles, parfois au détriment de la collecte patiente des faits. C'est-à-dire que ce qui démontre, c'est qu'au début, les naturalistes vont vraiment étudier, chercher, etc. Puis à un moment, c'est le désir de classification qui, des fois, va prendre le dessus sur l'observation, réelle. La conséquence principale a été de séparer radicalement nature et culture, nature et humanité, quand bien même pour lui cette coupure serait contestable. Bien des espèces animales connaissent des formes de vie collective, d'apprentissage, d'invention, de communication symbolique. Inversement, il y a toujours plus ou moins de l'animal dans l'humain, impulsion agressive, sexuelle. Serge Moscovici écrit « Le propre de l'homme n'est pas tant de fabriquer des outils ou d'être raisonnable que de se créer lui-même, de se combiner avec les autres êtres, bref, d'engendrer son état naturel. » Et donc toute la réflexion de Serge Moscovici va être de dire qu'on a beaucoup séparé la nature et l'humain, mais de dire dans l'humain produit en permanence sa propre nature, il a aussi encore des racines avec l'animal, et inversement, la nature n'est pas cette chose immuable et éternelle qui ne bouge jamais, mais d'abord elle a sa propre histoire, il y a une histoire de la nature à travers les millénaires, et puis la nature elle est en permanence aussi, en tout cas en Occident, construite par les humains. Donc on est en 1968, on voit donc comment la critique, la séparation homme-nature avance, et cette même année on a une conférence de l'UNESCO qui justement invite à élargir la vision des choses au-delà de la faune et de la flore. Cette conférence s'inquiète, donc on ne parle plus seulement de faune et de flore, elle s'inquiète alors des menaces qui pèsent sur, je cite, « la biosphère, cette mince écorce, interface de l'atmosphère et de la lithosphère, où la vie et ses produits se manifestent. » Voilà, donc une vision où déjà, vous voyez, on n'est plus uniquement dans la nature, on étudie que la faune et la flore, mais là déjà, on va vers le climat, et on commence déjà à se poser des questions en termes de processus, puisque la biosphère, la lithosphère, tout ça, c'est le résultat aussi des interactions avec l'espace, avec les rayonnements solaires, et puis avec ce qui remonte de la planète. À la même époque, donc je vous dis, on est en 1968, commence à émerger une autre thématique, qui est celle, la thématique du cadre de vie. On émerge quelque chose qui s'appelle les GAM, les groupes d'action municipale, dont le premier est créé en 1963 à Grenoble, par des militants catholiques de gauche de Vie Nouvelle, Peuple et Culture, Économisme et Humanisme, donc encore des chrétiens, la CFDT, et je suis à peu près sûr qu'il y avait des gens de l'ERF de Grenoble qui devaient se promener là-dedans. J'aurais dû leur poser la question, j'y étais la semaine dernière pour quelque chose sur l'environnement, et j'aurais dû leur demander. Et donc là, on voit apparaître la question avec le cadre de vie de l'écologie urbaine, la question du lieu où vivent les gens, et c'est mis en connexion forte avec déjà la question de qui décide, comment les habitants doivent aussi participer aux décisions d'urbanisme. En 1975 est créée la Confédération nationale des associations, enfin en 1975 une association qui s'appelle la Confédération nationale des associations populaires et familiales devient la Confédération syndicale du cadre de vie. Donc on a effectivement ces deux mouvements, cette critique de la nature, cette émergence de la vision des processus d'action de l'atmosphère et pas seulement de la faune et de la flore, ce thème du cadre de vie qui fait émerger au début des années 70 le terme d'environnement. Le terme qui est sans doute avant, mais c'est à ce moment-là qu'il débarque de manière forte dans le débat public. En 1971, on a la création pour la première fois d'un ministère de l'environnement. En 1973, il y a le programme des Nations Unies sur l'environnement. Alors qu'est-ce que cette notion amène par rapport à la notion de nature ? Bien, la nature n'est plus seulement quelque chose d'extérieur, où l'homme, certes, pourrait la regarder, pourrait se dire « il faut que je la protège ou pas », mais où finalement, ça ne lui serait pas essentiel. La nature devient le cadre nécessaire à la vie de l'homme, avec la notion de l'environnement. On retrouve le terme de cadre de vie. C'est aussi une vision qualitative, c'est-à-dire que ce qui va émerger, c'est que cette nécessité, elle est une nécessité biologique, elle est une nécessité en termes d'interaction et de survie des espèces, mais c'est aussi une nécessité psychologique, ou en tout cas en termes de qualité de vie et de sens de la vie. Parce qu'en même temps qu'on a des choses qui émergent du côté institutionnel, avec le ministère de l'Environnement, le programme des Nations Unies sur l'environnement, on a l'émergence des premiers textes des militants écologistes, du mouvement écologiste qui à ce moment-là commence à se manifester. Donc les premiers ouvrages de René Dumont, André Gors, Serge Moscovici. Pardon, André Gors, ouais. Alain Bosquet, qui signe Alain Bosquet dans le Velops, qui signe après André Gors. Ou des choses beaucoup plus ludiques, comme une bande dessinée qui s'appelle L'An 01, qui est dessinée par GB, d'abord dans Charlie Hebdo, puis qui devient un film tourné par Doyon. Tous ces auteurs-là vont insister, c'est pour ça que je parlais de nécessité psychologique, sur le sentiment que les modes de vie au début des années 70 ont une perte de sens, qu'il y a une perte de sens dans les modes de vie, liée non seulement à un environnement qui leur semble dégradé, mais de manière générale à une qualité de vie de moins bonne qualité. Pour eux, ça se résume par la critique du travail à la chaîne, des transports de masse, d'un urbanisme triste. C'est l'époque où on sort des années de bétonnage pompidolien, où on fait on modernise avec un urbanisme très... on ne sort pas, non, parce que Pompidou, c'est... Ben si, c'est ça, c'est 69, 73, donc oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et puis d'une consommation qui apparaît standardisée. Voilà, donc de avril 1974, donc on est en plein dedans. Et ce qu'il souligne avec cette question des modes de vie, c'est qu'il y a une perte de contact avec la nature, une disparition de la diversité environnementale, mais aussi culturelle. On parle beaucoup de la disparition des cultures régionales. Un accroissement de la solitude des personnes dans les grands ensembles, l'isolement des générations, l'importance donnée à la consommation au détriment des relations, et puis la dénonciation d'une agitation généralisée. GB, dans L'An 01, donc c'est sa bande dessinée, appelle à la révolte ouverte contre toutes les formes d'agonie. Donc on voit bien le lien entre la question qui émerge, les écologistes à ce moment-là ne posent pas seulement une question de disparition des ressources, mais une question de sens de la vie, de qualité de la vie. En 1972, on a le rapport du Club de Rome qui est publié, qui est un rapport très important puisque c'est le premier texte qui met de manière qui fait éclater dans le débat public la question de la finitude des ressources. Alors pas encore de la finitude de la planète par rapport au climat, mais de la finitude des ressources, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils font un calcul très simple, ils disent voilà, la croissance, elle est de tant chaque année, ça consomme tant de ressources. On sait qu'il y a tant de stocks de pétrole, d'eau, de ceci, de cela. Et bien, en 2050, à ce rythme-là, on aura épuisé toutes les ressources. Voilà. Donc, toute la thématique qu'on a aujourd'hui sur la question du pic de pétrole, du fait qu'on pourrait avoir les réserves de pétrole pour être épuisées, ça naît à ce moment-là. Et contrairement à ce qu'on a dit, le Club de Rome n'a pas encore été démenti, puisque leurs prévisions sont à 2050 et le retour de la thématique du pic de pétrole montre qu'ils étaient plutôt visionnaires. À ce moment-là, on voit donc combien s'arrêtait une approche des choses juste en termes d'un environnement, comme un simple cadre qu'il faudrait préserver des ratés ou des erreurs du système économique et technique, combien ça apparaît à ce moment-là comme insuffisant. Hein, vous voyez, on est passé d'une vision où il y avait l'homme, la nature, il fallait juste protéger la nature, puis après on a pris conscience que la nature c'était notre environnement et qu'on y en avait besoin comme humain pour son environnement et qu'on avait besoin aussi psychologiquement. Et là ce qui apparaît c'est qu'il faut aller encore au-delà avec toutes ces thématiques-là, c'est on constate que l'interaction homme-nature est si profonde qu'en fait les effets de l'action de la société humaine, de la technique, du capitalisme sur la nature, eh bien, ça se répercute sur la nature, mais aussi en retour, ça risque que ça se répercute sur l'homme lui-même. Du coup, ce qui apparaît, c'est que les problèmes, ce n'est plus les ratés du moteur, mais ce qui va apparaître, c'est que c'est le moteur, peut-être, qui en lui-même pose problème. Ou une image qu'utilisent énormément les écologistes à ce moment-là, c'est de dire, voilà, la droite, les libéraux se posent juste la question de comment faire augmenter le gâteau, hein, comment on a une économie efficace qui fait augmenter le gâteau. Les socialistes se posent la question de comment on répartit les morceaux du gâteau. Et les écologistes posent la question de dire, oui, mais le gâteau, est-ce qu'il ne serait pas empoisonné? Et est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir la recette du gâteau? Et c'est marrant parce que c'est une image qu'on trouve dans plusieurs ouvrages début des années 70, qui a été repris récemment par les auteurs de la décroissance. Et c'est drôle comme cette image du gâteau se promène. En 1972, dans un plaidoyer contre la défense de l'environnement, puisque Ellul, donc c'est une citation de Jacques Ellul, c'est un texte de Jacques Ellul où dès qu'un truc pour Ellul commençait à être un peu trop connu, il fallait tout de suite le fusiller pour passer à autre chose. Et donc dans son plaidoyer contre la défense de l'environnement publié dans Famille catholique, il écrit « Le milieu naturel est mis en question par un développement non pas anormal, mais normal de la technique, non par un abus et un mauvais usage des moyens, mais par leur simple naissance. » Voilà. Donc là, on voit le basculement qui s'opère entre dire voilà, il y a juste un environnement. Oh, l'environnement, il est un peu abîmé par notre système. Il faudrait juste réparer, juste essayer de voir quelques dysfonctionnements. Où là, on a une mise en question de dire bah non, c'est pas des dysfonctionnements, c'est le système fonctionnement normalement qui rentre en contradiction avec les questions naturelles. Et donc là, bon, on est encore, c'est encore le terme d'environnement qui est le plus fort, mais très rapidement, avec le début des années 70, c'est le terme d'écologie qui va surgir. Par exemple, quelqu'un comme Serge Moscovici, qui en 72-74 défend encore le naturalisme, il dit que la question c'est le naturalisme, il va après, dans ses textes de 75-76, plutôt parler d'écologie. Alors le terme d'écologie, vous avez sans doute déjà vu la... L'origine, la racine.
Ça ne peut pas faire de mal voilà. De reprendre les choses. Simples.
C'est un terme qui a été inventé en 1866 par Ernst Haeckel, qui est un biologiste allemand. Donc c'est toute l'histoire de l'écologie scientifique. qui est introduit en 1874 en France par l'école des annales en géographie, donc une école qui va chercher en géographie à voir sur commencer à voir le temps long de la géographie. Je ne pense pas qu'il pouvait se rapporter à cette école-là, mais une des premières figures qu'on dit figure écologiste, c'est Élisée Reclus, encore un protestant, fils d'un couple de Louis Pasteur, et elle ouvre une école à Orthez de l'église évangélique libre. Et les frères Reclus, il y en a un paquet, et Élisée Reclus et d'autres de ses frères sont aussi des communards à Paris, voilà, donc des protestants encore dans les parages. Mais il semble que le terme écologie avant Ernst Haeckel ait été utilisé par Henri David Thoreau en 1852. Donc Thoreau, qui est donc un transcendantaliste, donc d'abord un philosophe qui a travaillé sur la désobéissance civile, etc., mais qui était d'un courant issu des libéraux, des unitariens et plus loin avec Emerson, donc le courant transcendantaliste aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'amène cette notion d'écologie dans le débat? Eh bien, donc, on n'a plus un face-à-face homme-nature. La nature n'est plus seulement un cadre de vie, mais ça amène la notion d'écosystème, donc, qui vient directement de l'écologie scientifique, où on a une interaction entre une diversité d'éléments, entre l'humain, ce qu'il tire de la nature, ce qu'il y rejette, la météo, les cycles du climat, les cycles de l'eau, avec quelque chose de très compliqué, avec des cycles sur des temps très longs, et puis une évolution sur des millénaires, avec une nature qui évolue sur des millénaires, avec des périodes d'évolution, des périodes de climat, que ça ne bouge pas, puis à nouveau ça bouge. Donc ça, c'est l'écologie scientifique qui fait comprendre dans le débat public que il faut voir les choses de manière un peu plus large. Donc, je l'ai dit, avec l'apparition de l'écologie, c'est le mode de production qui commence à être questionné. C'est le moteur en lui-même et pas seulement mieux gérer ce qui rentre dans le moteur et mieux dépolluer ce qui en sort. C'est un lien donc aussi avec les modes de vie, puisque l'écologie, dans les années 70, elle se manifeste en tant que mouvement social. C'est le début des communautés, c'est le début des gens qui commencent à faire de l'agriculture biologique, qui commencent à essayer de vivre différemment, vivre autrement. C'est un des grands termes de l'époque. Une critique de la vitesse pour défendre plutôt l'idée de la lenteur, une critique de l'uniformisation à la fois de la biodiversité et puis de la diversité humaine, culturelle et sociale. Les mouvements écologistes vont être en lien très fort, je l'ai dit, avec les mouvements régionalistes, par exemple. Et puis une critique de la technique, alors là qui a pour référence directe Jacques Ellul, qui a beaucoup inspiré les penseurs de l'écologie, que ce soit Ivan Illich, puis après Ivan Illich qui a inspiré André Gorz et à travers ça inspiré tout le mouvement écologiste dans les années 70. Et donc critique de la technique pour plutôt dire est-ce que la technique ne nous met pas en situation d'hétéronomie, ça ne veut plus décider de nos vies, et donc critiquer pour dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres techniques ou un dégagement de la technique pour plus d'autonomie et plus de lenteur. Alors a priori on pourrait penser que avec l'écologie, finalement, tous les termes du débat actuel sont déjà posés. Et on pourrait se demander pourquoi apparaît finalement, ou sont apparus depuis, les termes de développement durable et les termes de décroissance, qui sont les termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, même si celui d'écologie n'a pas disparu. Alors, en 72, donc on est à ce moment-là où vous voyez, on passe du terme développement environnement au terme écologie, on a une conférence de l'ONU à Stockholm où on emploie le terme d'éco-développement proposé par l'économiste français Ignacy Sachs. Ce terme recouvre l'approche écologiste déjà évoquée et qu'on retrouve dans le texte final de la conférence, donc une approche qui appelle à une révision des modes de vie et à la recherche d'autres stratégies de développement que celles qui sont ont été développés jusque-là. Ignacy Sachs raconte que ce texte final de la conférence et que le terme lui-même d'éco-développement a provoqué la fureur alors d'Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État de Nixon, qui fait pression de manière très forte sur le secrétaire général de l'ONU pour que ce terme disparaisse de tous les documents de l'ONU Et dans les conférences internationales, pendant un moment, il va y avoir pas mal de flottement pour trouver un terme pour remplacer éco-développement. Donc éco-développement qui me remettrait trop en cause la question du changement des modes de vie. On se souvient qu'il y a des arguments forts, par exemple, de George Bush contre la conférence de Kyoto, c'était de dire « le mode de vie des Américains n'est pas négociable ». Donc on voit que ça remonte à loin du côté des autorités américaines. Et donc le terme qui va petit à petit émerger, c'est celui en anglais de « sustainable development ». C'est un terme qui est inventé en 1980 par les associations de défense de l'environnement, par l'Union internationale pour la conservation de la nature et puis par le WWF. Mais le terme va être popularisé en 1992 par la conférence de l'ONU à Rio sur l'environnement. Et donc on a un terme anglais qui est « sustainable development » et une partie du débat va être comment on le traduit. Et la traduction, derrière, se cache en fait des enjeux sur le sens de ce terme-là. Alors, est-ce qu'on doit le traduire par développement soutenable ou développement durable, qui est le terme qui finalement s'est imposé, en tout cas dans le débat français. Alors, moi, je me souviens qu'en 1991, j'étais étudiant en journalisme, et on avait fait, notre école nous avait parachuté pas très loin, à la cité de la Villette, à Paris. Et il y avait à ce moment-là une conférence des ONG pour préparer la conférence de Rio. Et le terme que défendaient les organisations non gouvernementales, notamment celles du Sud, c'était celui de soutenable, de développement soutenable. Parce qu'elles, ce qu'elles mettaient derrière, c'était que c'était soutenable, bien sûr, d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire comment on fait pour que ce qu'on consomme aujourd'hui fasse que les générations futures et encore les ressources pour pouvoir, dans leur mode de vie, avoir tous les choix, et puis faire que c'est soutenable environnementalement, parce que le climat ne se retrouve pas déréglé par ce qu'on va rejeter comme CO2. Mais c'était soutenable également dans deux autres sens, c'est-à-dire soutenable politiquement, c'est-à-dire est-ce que c'est un mode de vie qui, en termes de sens, est valable. Donc il donnait l'exemple toujours, dire mais par exemple une production d'armement qui serait uniquement fait des fusils uniquement avec du fer recyclé et qui ne produirait pas du tout de CO2, est-ce que c'est soutenable politiquement? Voilà. Et enfin, ça devait être soutenable parce qu'à l'époque, la revendication des pays du Sud, c'est de dire oui, il faut pouvoir concilier l'écologie et le minimum de développement pour nos pays pour répondre à nos besoins essentiels. Pourtant, petit à petit, ce qui va s'imposer, c'est le terme de développement durable. Et pourquoi développement durable? Eh bien, sans doute parce que, justement, quand on dit développement durable, ce qu'on voit, c'est surtout un développement qui peut durer à l'infini. Le terme durable n'implique pas du tout une vision morale, est-ce qu'on peut le soutenir ou pas. Et petit à petit, ce que vont dire les critiques du développement durable, c'est que c'est une vision qui, justement, est compatible avec le moins possible de pression sur les processus de production, le moins possible de contrôle sur les marchés et le moins possible de remise en cause des logiques de profit. Vous avez peut-être remarqué que développement durable, ça va de plus en plus souvent, c'est de plus en plus lié au terme croissance verte, ou capitalisme vert, qui serait l'idée que on pourrait continuer exactement comme avant avec le même système de production, le même marché, etc., et que même la prise en compte de l'environnement pourrait nous permettre de faire encore plus de croissance, encore plus de profit, de continuer exactement de la même manière finalement, mais magiquement on aurait pris en compte les contraintes environnementales. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une critique qui émerge contre le terme de développement durable. Donc là, le terme émerge en 92, il fait florès. Autour du début des années 2000, 2002, émerge le terme de décroissance. Alors, si le terme émerge à ce moment-là, c'est parce qu'il y a un contexte en France et en Europe qui est assez particulier. C'est qu'on a vu depuis les années 80-90, les mouvements écologistes commençaient à participer au gouvernement en Allemagne, en France avec le gouvernement Jospin de 97 à 2002. des mouvements écologistes qui vont reprendre petit à petit le terme de développement durable, alors que par exemple les Verts défendaient le terme de déco-développement, petit à petit vont prendre celui de développement durable. Et puis l'impression de la part de certains acteurs de l'écologie que les grandes associations, les partis verts s'institutionnalisent et finalement participent de cette vision que on pourrait continuer comme avant juste en intégrant un peu les contraintes environnementales. Donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le terme de décroissance, qui a une histoire plus ancienne, puisque moi la première occurrence que j'ai trouvée c'est en 1973 sous la plume d'André Gorz, quand il faisait un commentaire justement du rapport du Club de Rome sur, sur la question de d'épuisement des ressources, et où il dit face à une situation comme celle-là, il faudrait une décroissance, voire une non-croissance. Mais le terme finalement n'est pas utilisé, il n'est pas trop repris, et il émerge réellement au début des années 2000. Il est en fait mis en avant par des gens de Lyon qui s'appellent Vincent Chesnay et Bruno Clémentin, qui utilisent le terme de décroissance soutenable, et qui vont lancer un journal qui s'appelle La Décroissance, qui est un journal qu'on trouve en kiosque. Alors dans le projet de développement durable, l'idée de fond, c'est de dire qu'on pourrait réussir à découpler la croissance du PIB, la croissance de la richesse, de ce qui mesure la richesse, et puis le découpler des effets sur la nature, qu'on arrivera à continuer la croissance sans dégâts sur la nature. Et c'est ça qui va être plus riche tout en ayant moins d'impact sur la nature. Et c'est ça qui va être mis en critique, c'est l'angle de critique qu'aura, sur cet angle-là que la décroissance va entrer en débat. Alors plus précisément, la décroissance va rentrer en débat sur trois points. Dans les grands sommets internationaux, dans les grandes conférences, etc., le développement durable s'appuie sur trois mécanismes pour justement se dire on peut continuer à faire de la croissance en réussissant à ne pas toucher à la nature. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la substituabilité. Alors la substituabilité, c'est une des simples, c'est le marché, c'est magique, c'est génial, c'est quand un bien devient rare, du coup il devient cher, et donc les industriels, logiquement, vont chercher un autre bien moins cher à la place du premier. Et donc, comme il y a moins de consommation, puisque les industriels cherchent un autre bien, le premier, on le laisse un peu tranquille, et donc, on va éviter son épuisement. Voilà, c'est la substituabilité. Et donc, il suffirait d'avoir un marché transparent, qui répercute les prix, pour que ça marche. Alors, le premier problème, c'est que le marché, c'est un système beaucoup plus compliqué que le jeu de l'offre et de la demande, de manière aussi efficace que ça, que les gens qui font de l'économie mathématique s'aperçoivent qu'il y a énormément de dysfonctionnement, de contre-fonctionnement, de choses qui font que ça ne marche pas aussi bien. Et puis, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui sont devenus tellement indispensables. Par exemple, le pétrole est devenu tellement indispensable. Il a des particularités tellement spéciales que le remplacer, ce n'est pas si évident. Et on peut penser qu'actuellement, le pétrole a beau augmenter, finalement, on le substitue assez peu. Et donc, on risque de ne pas... les mécanismes de marché risquent de ne pas fonctionner pour empêcher son remplacement. Et puis, ce qui marche pour des matières premières ne marche pas pour d'autres choses. Ça ne marche pas pour le climat, ça ne marche pas pour un paysage, ça ne marche pas pour la mer, parce que là, il n'y a pas d'histoire de marché qui rentre en ligne de compte. Alors, justement, on a essayé de faire rentrer le marché avec, par exemple, le système du marché des émissions carbone, qui est une tentative pour le coup, alors les gens qui critiquent disent, mais voilà, vous marchandisez le climat. Voilà. Le deuxième mécanisme, c'est l'idée de l'immatériel. C'est-à-dire que, voilà, jusque-là, on avait une méchante croissance matérielle avec des usines, de la matière première, de l'acier, etc. Mais grâce à la technique, maintenant, nous avons une croissance immatérielle. L'informatique, la communication, le savoir, etc. Alors, l'inconvénient, le problème avec ça, c'est que Ce qu'on voit, c'est que la croissance, d'abord la croissance immatérielle, ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que des ordinateurs qui servent pour l'informatique, pour la communication à travers la publicité, c'est aussi du matériel. Les ordinateurs, c'est du plastique, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. La publicité, c'est de beaucoup d'énergie. Par exemple, vous avez vu dans le métro, les nouveaux écrans qui font, c'est plus seulement des affiches, c'est des images. Hein. Et ben ça, à l'année, ça consomme 3 fois plus qu'un foyer moyen. Voilà. Donc, on a un exemple de quelque chose qui devrait être de l'économie immatérielle et qui a un impact matériel très fort. Et puis ensuite, l'économie immatérielle au niveau mondial s'additionne plus qu'elle remplace l'économie matérielle, parce que si on a moins d'usines ici, vu qu'on consomme pas moins de voitures et pas moins de chaussures, ben c'est juste que les usines elles sont parties pour certaines ailleurs. Donc on a bien de l'économie immatérielle qui se rajoute à l'économie matérielle. Et puis le troisième dispositif qui devrait faire, qui est un peu l'idée, un des mécanismes de développement durable et qui est aussi mis en critique par les partisans de la décroissance, c'est la question de l'éco-efficience et d'efficacité énergétique. L'idée, elle est que finalement, la technique permet aujourd'hui de faire les mêmes choses en consommant moins d'énergie. Les voitures qu'on utilise consomment, 10-20% d'énergie qu'il y a 10 ou 20 ans. Notez pas, mes chiffres, ils sont faux, mais c'est pour vous donner un exemple. Hein. Toute la stratégie va être de dire, on pourrait avoir à peu près la même économie, la même consommation, on ne change rien, mais grâce aux techniques, on fera tout en divisant par 4 ou par 10 la consommation d'énergie, grâce juste au progrès technique. C'est ce qu'on appelle, vous entendrez peut-être les termes de facteur 4 ou facteur 10. On divise par 4, on divise par 10. Et c'est vrai que la technique permet ces progrès en termes d'éco-efficience, d'efficacité énergétique. Et donc, ça pourrait marcher. La seule difficulté, c'est ce que les objecteurs de croissance, par exemple la décroissance, ont mis en avant un effet pervers qui s'appelle l'effet rebond. Alors l'effet rebond, ils ne l'ont pas inventé, ils sont allés chercher un économiste du 19e siècle, qui s'appelle Jevons, qui a étudié les machines à vapeur et la question du charbon. Au 19e siècle, il s'aperçoit que les machines à vapeur, toutes les machines pour lesquelles on utilise du charbon sont de plus en plus efficaces, qu'elles consomment de moins en moins de charbon en faisant la même chose, et pourtant la consommation de charbon augmente. Pourquoi donc ? Eh bien c'est simple, c'est parce que certes elles sont de plus en plus efficaces, mais il y a de plus en plus de machines à vapeur, de machines partout. Et donc on se retrouve aujourd'hui face à l'éco-efficience dans la même situation. C'est-à-dire que certes, nos voitures consomment de moins en moins, mais il y a de plus en plus de voitures. Et par exemple, si on regarde les chiffres de entre 1990 et aujourd'hui, il y avait un dossier dans Le Monde l'été dernier, on s'aperçoit par exemple que sur les transports et sur les logements, on a gagné énormément en éco-efficience, mais tous ces gains-là ont été mangés par le fait que, en même temps, il y a eu une croissance des transports et en moyenne, les maisons ont été plus grandes. C'est-à-dire qu'elles consomment, il y a moins de chauffage, il y a plus d'efficacité dans le chauffage, mais les maisons sont plus grandes, donc au bout du compte, on consomme plus. Alors, ce n'est pas les familles de la maison verte qui habitent à 5 ou 6 dans des deux pièces qui ont agrandi leur maison, mais globalement, visiblement, je pense notamment avec l'effet de dispersion urbaine où on va aller faire des petites maisons, des lotissements de plus en plus loin, on a sans doute cet effet-là. Sachant que les gens vont aussi de plus en plus loin parce que, par exemple, à Paris, le mètre carré augmente et qu'on va chercher plus loin d'endroits où se loger. Donc voilà, il y a des effets aussi, il y a des mécanismes ou des cercles, non pas vertueux, mais des cercles pervers. Alors pour terminer, puis je pense qu'on pourra ensuite peut-être continuer la discussion. Donc voilà, donc il y avait ce terme de développement durable qui a pris la suite du terme écologie, qui lui-même a pris la suite du terme environnement, qui a pris la suite du terme nature, sachant que tous ces termes continuent à exister dans le débat, mais qu'il y en a qui sont plus sur le devant de la scène. Et donc là, actuellement, il y a un débat autour de développement durable ou décroissance. Donc je vous ai expliqué ce que la décroissance pointait comme dysfonctionnement dans le raisonnement du développement durable, sachant qu'on verra, on prendra dans le débat, hein, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que derrière le terme développement durable, il y a des choses extrêmement différentes. Il y a à la fois des, on peut y avoir des entreprises ou des municipalités qui l'utilisent juste comme ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire on lave son image avec du verre en mettant juste un colloque par-ci, du papier recyclé par-là. Et puis après, il y a des entreprises ou des municipalités qui font du développement durable de manière très sérieuse en ayant pris en compte toutes les limites de ce que j'ai exposé avant, et qui vont réfléchir, par exemple, sur raccourcir, éviter le développement des transports en faisant que les lieux de vie, les lieux de consommation, les lieux de travail soient rapprochés, etc. Donc derrière développement durable, il y a des réalités très diverses. Mais donc la décroissance critique, la vision dominante du développement durable. Et donc, elle propose d'aller plus loin et de s'attaquer, en fait, beaucoup plus au moteur, comme on disait, ou de changer plus radicalement la recette du gâteau, pour prendre l'autre image. On voyait dans le système de l'éco-efficience, on voyait comment l'efficacité énergétique était rattrapée par la croissance. Et donc, ce qui va être mis en critique, c'est la croissance permanente, toujours plus de biens, toujours plus de machines pour produire, toujours plus de biens dans la consommation des uns ou des autres. Alors, ce qui se traduit, oui ou non, pas forcément par l'augmentation ou pas du PIB, c'est-à-dire que derrière le terme décroissance, on entend souvent le terme croissance négative. C'est pas aussi simple, parce qu'il pourrait y avoir des croissances positives qui seraient... parce que l'éducation... il y a plein de choses dans l'indice PIB. Il y a aussi énormément de choses qui sont de la production de biens uniquement, la solidarité sociale, la redistribution, l'éducation, ça fait augmenter le PIB. Donc on pourrait avoir très bien une augmentation du PIB qui soit en même temps avec une baisse du nombre de voitures produites, etc. Et inversement, on pourrait très bien avoir une baisse du PIB qui aille avec toujours plus de production, mais qui ait moins de valeur. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, par exemple, le PIB, c'est un calcul de la valeur marchande. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui a de la valeur sur le marché. Et par exemple, un médicament, il a beaucoup de valeur, il se vend cher quand il est mis sur le marché parce qu'il est encore avec des licences. Dès qu'il rentre dans le bien public ou dans le domaine public, merci, à ce moment-là, sa valeur chute. Pourtant, le médicament, il remplit toujours le même office. Mais dans le PIB, il produit beaucoup moins. Et c'est pareil pour à peu près toutes les productions. On pourrait donc imaginer qu'on ait un PIB qui baisse, voire qui est négatif, parce que par exemple, on n'a plus que des vieux médicaments, plus que des vieilles voitures, etc. Donc on aurait une décroissance, ou en tout cas une croissance négative, mais en même temps, comme on aurait des vieilles voitures qui seraient toujours aussi polluantes, eh ben on aurait plus de ponctions sur la nature, parce qu'on consomme et parce qu'on rejette. Donc l'indice croissance positive plus polluante, croissance négative moins polluante, vu ce qu'est l'indice du PIB, qui est un indice en fait très mal fichu, c'est pas forcément très parlant. Donc quand les objecteurs de croissance critiquent la croissance, ils critiquent pas forcément l'indice croissance du PIB, ils pointent que est-ce qu'on doit toujours avoir autant, et toujours plus surtout, d'objets qui consomment des matières premières, qui rejettent de la pollution, etc. Et donc un des grands thèmes qu'ils vont développer, c'est augmenter la richesse, mais pas la richesse matérielle, plutôt la richesse qualitative. Leur grand slogan, ce sera plus de liens, moins de biens. Donc redécouvrir les liens sociaux, le vivre ensemble, et moins de biens matériels. Ils mettront en avant aussi il y a un nombre d'observateurs de croissance qui ont des racines croyantes, je pense notamment à Vincent Chesnay à Lyon, des gens comme Pierre Rabhi, en disant, mais est-ce qu'aujourd'hui la vraie richesse, c'est pas plutôt la découverte des autres ou aussi la spiritualité? Et donc ce qu'il pousse derrière, c'est un changement de mode de vie, une sortie moins consommée que sortir de la logique de consommation. Et donc ça pose des questions en termes de valeur, d'image du bien-être, de qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour les uns ou les autres dans cette vie. Autre proposition, l'idée de relocaliser l'économie, c'est-à-dire de dire est-ce qu'il est nécessaire que les choses soient produites, que pour une voiture, les choses soient produites aux quatre coins de l'Europe, voire plus loin, et rassemblées ici. Est-ce qu'il est logique que nos fruits viennent de l'autre bout de l'Europe? Est-ce qu'il est logique que le lait bio vienne d'Allemagne, alors qu'il pourrait y avoir des vaches ici qui pourraient le produire? Donc voilà. Mais ça implique aussi de retravailler, et ça c'est tout ce qui se passe du côté par exemple de circuits courts qui se remettent en place, avec ce qu'on appelle les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, en essayant de réfléchir à une ville, quel est son bassin de consommation pour les fruits et les légumes par exemple. Troisième thématique des objecteurs de croissance, l'idée d'entrer dans une économie de l'usage, avec une proposition qui serait la gratuité de l'usage et le renchérissement du mésusage. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes bizarres? Paul Ariès, qui est une des personnes qui réfléchit à ça, demande, est-ce qu'il est logique de payer le même prix l'eau quand elle sert à boire parce qu'on a soif, se laver et à laver ses enfants, et quand elle sert à remplir une piscine ou à arroser des golfs? Voilà. Et donc de dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont des usages écologiquement et socialement légitimes, ou en tout cas assumables par l'ensemble de la communauté, et puis des usages qu'on pourrait dire par rapport au capital environnement, qui sont des mésusages, des usages qui seraient, mais c'est plutôt l'idée de choses négatives. Et donc son idée, c'est pas d'interdire forcément les mésusages, quoique on pourrait dire qu'il y a certains mésusages qui sont... Il y a des usages qu'on interdit. On interdit l'usage de, par exemple, des quads dans certains espaces, dans certains endroits naturels. Donc il y a des fois, on dit, eh ben non, cet usage-là, à cet endroit-là, non. Son idée, c'est plutôt de dire, socialement, au 19e siècle, on s'est dit, les gens ont besoin, tout le monde a besoin d'éducation, donc l'éducation est gratuite. C'est de dire, on pourrait dire, tout le monde a besoin au moins d'un logement, d'une certaine quantité d'eau, d'électricité, etc. Alors ça, c'est... S'il n'y a aucun élément objectif pour le déterminer, c'est le débat social qui détermine quel est ce besoin nécessaire, ça pourrait être gratuit, parce que tout le monde en a besoin pour vivre. Et puis au-delà, on le ferait payer. Donc c'est une manière aussi, une forme de redistribution des richesses, et c'est une manière aussi de pouvoir lier la question de l'environnement avec la question sociale. Puis dernier élément, c'est la nécessité de changer l'appareil productif, c'est-à-dire est-ce que on est dans un système où on produit parce que derrière une logique de croissance absolue, grandir ou disparaître pour les entreprises, une logique de profit, mais sans se poser réellement la question de la finalité de cette production-là. Et donc du coup sont remis en circuit des débats autour de la valeur valeur d'usage et de la valeur d'échange. Ce sont des vieux débats dans la philosophie chez Aristote, repris ensuite par Marx, c'est-à-dire des choses ont de la valeur par l'usage qu'on en a, ont des choses de la valeur parce qu'elles permettent, par la valeur qu'elles ont dans l'échange. Et donc, est-ce qu'on est capable de refaire un système économique qui met d'abord en avant la valeur d'usage et moins la valeur d'échange ?